Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du vendredi 11 septembre 2015. Bagassi Koura et Anne Albertson en votre compagnie. Au sommaire ce matin.
Un mort et des blessés hier en Côte d'Ivoire, dans des heurts principalement dans l'Ouest, à propos de la candidature du président Alassane Ouattara.
Au Burkina Faso, la liste des candidats à la présidentielle du 11 octobre est connue.
22 magistrats ont été suspendus au Ghana. Ils sont accusés de corruption par un journaliste qui affirme les avoir filmés clandestinement en train de recevoir des pots de vin.
L'homme qui répare les femmes, le film consacré au combat du gynécologue congolais Denis Mukwege est désormais définitivement interdit en RDC.
Le drapeau palestinien sera hissé à l'ONU à la suite d'un vote jeudi de l'Assemblée générale.
Les États-Unis vont accueillir au moins 10 000 réfugiés syriens au cours des 12 prochains mois. Et bien sûr, vous aurez la Minute Éco et les sports dans une dizaine de minutes.
En Côte d'Ivoire, un mort et des blessés hier dans des heurts, principalement dans l'ouest du pays, à propos de la candidature du président Alassane Ouattara. Des détails avec Henri Francisque.
Les heurts se sont produits notamment dans la région natale de l'ancien président Laurent Gbagbo. Selon l'AFP, les jeunes Bété, l'ethnie de M. Gbagbo, ont érigé des barrages à Gagnoura, 230 km au nord-ouest d'Abidjan, sa ville natale, ainsi qu'à plusieurs carrefours des environs, bloquant la circulation. Ces manifestations font suite à la publication mercredi par le Conseil constitutionnel ivoirien de la liste définitive des candidats à la présidentielle, dont M. Ouattara, autorisé à briguer un second mandat. Le président sortant est le favori de ce scrutin, mais une partie de l'opposition favorable à l'ancien président Laurent Gbagbo et qui conteste l'éligibilité de M. Ouattara avait appelé à des marches ce jeudi.
Au Burkina Faso, la liste des candidats à la présidentielle du 11 octobre 2015 est connue. Après délibération, le Conseil constitutionnel a décidé de maintenir 14 noms sur la liste. Les principales formations politiques sont représentées, sauf celle de l'ex-président Blaise Compaoré, le CDP, dont le candidat Idi Kombouego a été écarté, ainsi que tous les anciens ministres de Compaoré. On y reviendra dans la partie magazine avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Au Ghana, 22 magistrats ont été suspendus. Ils sont accusés de corruption par un journaliste qui affirme les avoir filmés clandestinement en train de recevoir des pots de vin. Michel Joseph.
Le conseil judiciaire a interrogé les 22 magistrats et sur la base de leurs réponses, ils ont été suspendus hier. La ministre de la Justice, Georgina Wood, étudie la possibilité de sanctions contre 12 autres juges cités dans la même affaire. Le scandale a éclaté cette semaine avec les révélations du New Crusading Guide. Ce journal accuse des magistrats et des responsables de la justice ghanéenne d'avoir accepté de l'argent dans une série de dossiers allant de nominations à des jugements de complaisance. Notre confrère Anas Aremeyao, Anassa, qui a publié l'article, a adressé une requête au président John Dramani Mahama pour demander le licenciement de ces juges accusés de corruption. Le conseil judiciaire assure que les résultats de ces enquêtes seront rendus publics et qu'il y aura à coup sûr des sanctions pour ceux qui seront reconnus coupables.
Au Rwanda, c'est une commission de 7 membres, essentiellement des juristes, qui a été chargée, selon l'AFP, d'élaborer un projet de réforme de la Constitution devant notamment permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Le 11 août, le Parlement rwandais avait donné son feu vert à une révision constitutionnelle. L'article 101 de l'actuelle Constitution interdit d'exercer plus de deux mandats présidentiels. M. Kagame a déjà été élu deux fois, en 2003 et en 2010.
Si vous nous écoutez en RDC, sachez que vous ne pourrez pas voir sur place le documentaire « L'homme qui répare les femmes » consacré au combat du gynécologue congolais Denis Mukwege en faveur des milliers de femmes violées dans l'est du pays. Le gouvernement congolais a en effet annoncé jeudi l'interdiction définitive du film. Selon l'AFP, Kinshasa accuse son co-réalisateur belge Thierry Michel d'avoir proféré des menaces contre un ministre du pays. Les autorités congolaises avaient déjà annoncé le 2 septembre l'interdiction de diffuser le film. En arguant que ce documentaire, récompensé par plusieurs prix internationaux, témoigne d'une volonté manifeste de nuire à l'armée congolaise et de salir son image.
Sur le continent, 4 utilisateurs de Facebook sur 5 se connectent via leur téléphone portable. L'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya comptent le plus d'utilisateurs. En Afrique subsaharienne, Lionel Gaïma.
Selon l'Union internationale des télécommunications, l'Afrique a connu ces dernières années une explosion du taux de pénétration du mobile qui se situe à 63%. Le portable est l'alternative pour téléphoner et se connecter à l'Internet. Les lignes fixes sont souvent vétustes et l'accès à des ordinateurs n'est pas facile. Ainsi, tous les jours, plus de 7,3 millions de Sud-Africains, 7,1 millions de Nigériens et 2,2 millions de Kenyans se connectent à la toile. Facebook, qui a bien compris ce boom, vient d'ouvrir à Johannesburg son premier bureau africain. 60% des utilisateurs africains d'Internet sont actifs sur le réseau social fondé par Mark Zuckerberg. En Afrique subsaharienne, le nombre d'utilisateurs est passé de 100 000 à 120 millions entre septembre 2014 et juin 2015.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le drapeau palestinien sera hissé aux Nations Unies à la suite d'un vote jeudi de l'Assemblée générale. L'organisation internationale a voté 119 pour et 8 contre pour permettre aux États observateurs non membres de monter leur drapeau au siège et dans les bureaux de l'ONU. Les territoires palestiniens et le Vatican sont les deux seuls États observateurs non membres de l'ONU.
Les États-Unis vont accueillir au moins 10 000 réfugiés syriens au cours des 12 prochains mois. Washington va augmenter son aide humanitaire aux personnes qui fuient les violences en Syrie. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a déclaré que le président Barack Obama a demandé à l'administration de se préparer à accueillir les réfugiés dès le mois prochain. Les États-Unis accueillent, il faut le dire, 70 000 réfugiés de partout dans le monde chaque année.
Des agents fédéraux américains ont arrêté un homme de Floride pour avoir fait partie d'un complot visant à faire exploser une bombe pendant la commémoration du 11 septembre 2001, ce vendredi à Kansas City, dans le Missouri. Le ministère de la Justice affirme que Joshua Ryan Goldberg a fourni des informations à un agent infiltré du FBI sur la façon de construire une bombe à partir d'une bouteille de gaz, similaire aux bombes qui ont tué 3 personnes et blessé 264 autres au marathon de Boston en 2013.
Les sénateurs démocrates au Congrès américain ont réussi à empêcher un vote de la Chambre haute sur l'accord conclu entre l'Iran et 6 puissances mondiales, dont les États-Unis d'Amérique, chez Rubin Dorsil.
La résolution devant autoriser un vote final, ce qu'on appelle un vote de procédure, requérait une majorité de 60 voix, mais seulement 58, 54 républicains et 4 démocrates l'ont soutenue. Une victoire temporaire pour le président Barack Obama, qui n'aurait même pas besoin d'user de son droit de veto dans ce cas. Mais le leader de la majorité, le sénateur républicain Mitch McConnell du Kentucky, a laissé ouverte la possibilité d'un autre vote avant le délai du 17 septembre. À ce stade, les partisans de l'accord ont assez de voix au Sénat pour soutenir un veto présidentiel. Le leader de la minorité, Harry Reid, du Nevada, a appelé M. McConnell à mettre fin au processus pour s'occuper, dit-il, d'autres questions urgentes pour la nation.
Le pape François est attendu aux États-Unis à la fin du mois. Il sortira dans sa pape mobile après sa rencontre avec le président Barack Obama le 23 septembre. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le pape sera accueilli à sa descente d'avion par le président Barack Obama et sa femme Michelle. Il apparaîtra dans les rues au sud de la Maison-Blanche. Les spectateurs et fidèles qui voudront l'apercevoir devront toutefois passer des barrières de sécurité. Un grand écran près de l'obélisque retransmettra les images de ses déplacements à Washington. Le pape ira rencontrer les évêques américains à la cathédrale Saint-Matthieu et célébrera une messe en espagnol en la basilique de l'Immaculée Conception. Le 24 septembre, le souverain pontife prononcera un discours historique devant le Congrès américain, puis se rendra à New York pour un discours à l'ONU. Pendant son escale new-yorkaise, le pape va visiter le site des attentats du World Trade Center. Le lendemain, le pape sera à Philadelphie pour la rencontre mondiale des familles catholiques.
Ici aux États-Unis, alors que les primaires se rapprochent, de nouveaux sondages viennent consolider l'avance du milliardaire Donald Trump et le calcul de la démocrate Hillary Clinton. Les précisions de Dilly Dico.
À moins de 5 mois des primaires, le mania de l'immobilier, Donald Trump ne cesse de monter dans les sondages. Dans une nouvelle étude de CNN, il recueille 32% des intentions de vote, consolidant sa première place chez les républicains. Trump est suivi par Ben Carson, un neurochirurgien à la retraite dont le tact et la foi sont appréciés par les électeurs conservateurs. Quant au républicain Jeb Bush, fils et frère des anciens présidents Bush, il est loin derrière dans les sondages. Du côté démocrate, la chute d'Hillary Clinton se confirme. Les sondeurs prennent le cas de l'Iowa, premier État à se rendre aux urnes dès février 2016. On se souvient qu'en 2008, cet État a été le théâtre de la défaite d'Hillary Clinton face à Barack Obama. Les résultats publiés hier montrent une concurrence très serrée. Le sénateur Bernie Sanders devance légèrement l'ex-chef de la diplomatie américaine avec 41% des intentions de vote contre 40%. Cette chute d'Hillary Clinton fait suite à la polémique sur sa messagerie privée lorsqu'elle était secrétaire d'État de 2009 à 2013.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Camille Gros-Didier.
Les prix agricoles mondiaux ont enregistré en août une forte baisse et atteint leur plus bas niveau en 7 ans. C'est ce qu'a annoncé la FAO en précisant que cette baisse est due à l'abondance de l'offre et à la chute des prix de l'énergie. Autre facteur, le ralentissement de la demande d'importation, notamment en Inde et en Chine. Parmi les principales denrées affectées, le lait, les huiles végétales, le sucre et les céréales qui ont perdu 15% en un an. Par ailleurs, l'indice des prix céréaliers étaient en août d'environ 154,9 points, en recul de 7% par rapport à juillet et de 15,1% par rapport à 2014. Et puis, le groupe minier Elenilto affirme avoir remporté en partenariat avec un groupe chinois un appel d'offres d'1,4 milliard de dollars pour l'exploitation d'un vaste gisement de phosphate au Togo. La société Elenilto est contrôlée par le groupe Engel Invest de l'homme d'affaires israélien Jacob Engel, très actif en Afrique. Dans un communiqué, elle a précisé que la mine, située près de Lomé, la capitale, permettra la production de 5 millions de tonnes de phosphate, engrais et acide phosphorique chaque année. Il s'agirait du gisement de phosphate le plus important du sud du Sahara, avec des réserves estimées à plus de 2 milliards de tonnes de phosphate, ajoute le document.
C'était la Minute Éco avec Camille Gros-Didier. Merci Camille. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports avec Timothée Donnermaier. Bonjour Tim.
Bonjour Bagassi.
Open de tennis des États-Unis, une météo peu coopérative a perturbé les demi-finales dames d'hier, mais du coup, elle offre un super vendredi aux fans.
Et oui, Bagassi, grâce au mauvais temps, les demi-finales dames et messieurs se joueront le même jour. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, Serena Williams, en quête d'un historique grand chelem, va affronter l'Italienne Roberta Vinci. À 32 ans, cette dernière va jouer sa première demi-finale en simple d'un tournoi majeur. Vinci aura fort à faire face à Williams qui aborde le tournoi new-yorkais en pleine confiance. Sa dernière défaite à Flushing Meadows remontant à 2011. En cas de victoire aujourd'hui et en finale samedi, elle réalisera le premier grand chelem dames depuis celui de l'Allemande Steffi Graf en 1988. L'autre demi-finale dames opposera la Roumaine Simona Halep à l'Italienne Flavia Pennetta.
Les demi-finales messieurs promettent aussi de chaudes empoignades.
Avec le derby suisse entre Roger Federer et Stanislas Wawrinka qui assure qu'il y aura un Suisse en finale à New York cette année. Federer semble avoir retrouvé le niveau qu'il avait propulsé en tête du classement mondial, mais Wawrinka a gagné Wimbledon cette année. Autre duel attendu, celui entre le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, et le tenant du titre de New York, Marin Cilic. En 13 affrontements, Djokovic a toujours été vainqueur, mais Cilic compte bien prendre sa revanche cette fois-ci. Pour ce qui est de la météo, c'est la dernière fois qu'elle entrave la grand-messe du tennis à New York, car dès 2016, l'Arthur Ashe Stadium sera équipé d'un toit rétractable.
Alors on passe en football. Le président de la commission d'audit et de conformité de la FIFA, Domenico Scala, a présenté un plan visant à lutter contre la corruption au sein de la Fédération internationale.
Ce plan en 8 points prévoit notamment de limiter à 3x4 le mandat du président de la FIFA. Les principales autres mesures préconisées par Scala, un contrôle renforcé et centralisé de l'intégrité des membres actuels du comité exécutif et des autres responsables de la FIFA, l'élection des membres du comité exécutif actuellement désignés par les 6 confédérations, ainsi que la publication des rémunérations du président, des membres du comité exécutif et du secrétaire général de la FIFA.
Merci Timothée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura au micro, Le Monde aujourd'hui, place maintenant au dossier du jour. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, dont la validation de la candidature a déclenché hier des heurts, notamment dans l'ouest du pays. Alassane Ouattara fait donc face à une opposition morcelée dans sa course à un deuxième mandat présidentiel. Pas moins de 33 candidatures avaient été déposées, un record. Au final, le Conseil constitutionnel en a validé 10. La correspondance d'Émilie Yob à Abidjan.
10 candidats, 8 hommes et 2 femmes, s'affronteront le 25 octobre prochain lors des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel ivoirien. L'une des questions qu'a dû trancher l'instance concernait l'éligibilité d'Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. Certains de ses opposants affirmaient qu'il ne satisfaisait pas tous les critères requis, mais le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, en a conclu autrement.
L'examen du dossier de candidature de M. Alassane Ouattara révèle qu'il est conforme aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, qu'il échoue en conséquence de l'inscrire sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015.
Juste avant l'annonce, un important dispositif policier avait été déployé autour de l'immeuble abritant le Conseil constitutionnel à Abidjan. Ces prochaines élections sont perçues comme une étape importante pour solidifier la paix dans le pays après des années de guerre civile et de violents affrontements lors des précédentes élections en 2010. Les résultats des urnes avaient été contestés et les partisans du président de l'époque, Laurent Gbagbo, et ceux du candidat de l'opposition, Alassane Ouattara, s'étaient affrontés pendant plusieurs mois, faisant près de 3000 morts. Finalement, Laurent Gbagbo fut arrêté et Alassane Ouattara fut déclaré président. 5 ans plus tard, ce dernier est donné favori dans la course à la présidentielle d'octobre prochain face à une opposition morcelée. Les deux principaux partis, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire ou PDCI, ainsi que le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, ont connu de graves crises internes ces derniers mois. Plusieurs ténors politiques ont claqué la porte de leurs partis respectifs et décidé de se porter candidat à la présidentielle sous l'étiquette d'indépendant ou bien ont lancé leur propre parti. Parmi les candidats, les anciens premiers ministres Pascal Affiengessan et Charles Konambani, l'ancien ministre des Affaires étrangères Amara Essi et l'ancien président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly. Ce dernier, qui a fondé son propre parti, le Leader, a rejoint la CNC, une coalition de plusieurs membres de l'opposition avec pour but de s'allier contre Alassane Ouattara, comme l'explique la déléguée générale du parti Leader, Monique Bekia.
Nous nous sommes dit que seul on ne pouvait pas véritablement battre le candidat Ouattara. Il fallait qu'on se mette ensemble. On est de divers horizons et il y a toujours des petites incompréhensions. Ça, on ne va pas le nier. Mais l'objectif majeur, c'est la Côte d'Ivoire et tout le monde fait bloc par rapport à cela.
La campagne électorale ne commence pas avant le 9 octobre prochain, mais Alassane Ouattara et son parti l'ont déjà répété plusieurs fois. Le but n'est pas seulement de gagner, c'est de gagner au premier tour. Émilie Yob pour La Voix d'Amérique à Abidjan.
Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a publié ce jeudi soir la liste définitive de ceux qui peuvent prendre part à la course pour le fauteuil de président du Faso. Ils étaient d'abord 16 postulants à être acceptés. Après les recours, les juges du Conseil constitutionnel ont recalé 2, Djibril Bassolé et Yacouba Ouédraogo, tous 2 anciens ministres de Blaise Compaoré. Le point avec Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
En rendant publique la liste définitive des candidats à la présidentielle au Faso, le Conseil constitutionnel lève du même coup le suspense qui l'entourait avec les recours en inéligibilité. À chaud, voici ce que les Burkinabés pensent de cette liste définitive.
Les 16, on vient d'enlever 2, donc il reste 14. Mais je me dis quand même que ce n'est pas suffisant. Parce que en regardant quand on veut aller au fond des choses, quand même les RAM là aussi ont participé d'une manière ou d'une autre. Salvador aussi. Donc si aujourd'hui on enlève et puis on laisse les. Je pense que bon, comme c'est la justice, on ne peut rien dire. Notre souhait que tout se déroule bien, que Dieu donne la paix au peuple burkinabé.
Moi, j'ai craint pour Rochmar Christian Kabore, du fait que lui vu, il passe. Sincèrement, je suis très content. Les deux là, Djibril Bassolé et Yak, du fait qu'ils ne sont pas là, je suis vraiment content.
C'est la démocratie qui se dessine. Déjà, c'est un grand pas. Je suis satisfait de la décision par rapport à Djibril Bassolé et Yacouba Ouédraogo.
Maître Benavendé Sankara a lui formulé 4 recours. Le Conseil constitutionnel lui a donné raison sur la moitié. Comment le prend-il?
Le Conseil constitutionnel a certainement fondé sa décision en référence à sa propre jurisprudence, puisque déjà nous avons introduit pour les législatives des recours où des candidats avaient été déclarés inéligibles, dont également d'anciens ministres de Blaise Compaoré. Donc le Conseil constitutionnel est resté en phase avec sa propre jurisprudence. Les deux autres, Ram Ouédraogo et M. Yamuro Salvador, sont des présidents de partis politiques qui ont soutenu le référendum qui demandait la modification de l'article 37. Ils ont échappé au filet. Nous le regrettons, mais nous prenons acte de la décision de justice en espérant que les candidats recalés seraient aussi républicains, prendront acte.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Bénin, le spectre d'une année perturbée plane sur la rentrée scolaire et académique. Les enseignants exigent que le gouvernement augmente leur salaire et améliore le statut des enseignants contractuels, faute de quoi l'année sera très perturbée. Le reportage à Cotonou de notre correspondante Ginette Flore Adande.
L'école béninoise, en phase d'être paralysée dès la rentrée prochaine, les centrales syndicales agitent les revendications restées insatisfaites comme facteur de blocage de l'année scolaire et académique. La revendication principale reste l'augmentation du salaire. À cela s'ajoutent d'autres points liés à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants.
Les 1,25, on a donné ça à tous les travailleurs. Les enseignants n'ont pas réclamé 10 000 francs. On n'a qu'à nous donner les 1,25. Ça, c'est même pas négociable.
Et si, ma foi, ils ne trouvaient pas satisfaction, ça veut dire que c'est le gouvernement même qui amènera les gens à choisir la voie difficile de débrayage.
Il y a des enseignants qui sont reversés et qui n'ont pas encore le reversement. N'est pas encore terminé. À cela s'ajoute la situation des collègues vacataires qui sont dans une situation de précarité totale.
Le rejet formel et sans embâche du programme de volontariat dans l'enseignement. L'espace scolaire ne saurait être le lieu d'essais d'insertion de jeunes non qualifiés et à profil douteux pour renforcer la précarité de l'emploi des jeunes, l'insécurité pédagogique des apprenants et la massification des mauvais résultats scolaires, les échecs massifs aux examens nationaux.
Pour les syndicalistes, le gouvernement n'est pas réactif en thème de satisfaction des revendications. Pour eux, il n'y a que les grèves perlées pour rappeler au gouvernement son devoir envers les partenaires sociaux.
Les dernières négociations qu'on a eues, ça a été bloqué parce que les gens ne voulaient pas payer les 1,25. Depuis, plus rien. Au jour d'aujourd'hui, rien n'est satisfait. On a donné ça à tous les travailleurs. On ne veut pas donner aux enseignants. Et pour les cajolés, on dit on donne 10 000. C'est quoi 10 000?
Les 4 mois à venir ne seront d'aucun repos pour l'État béninois qui doit faire face à des grèves perlées. Outre les enseignants, les magistrats haussent déjà le ton. Et les anesthésistes des hôpitaux publics menacent déjà de fermer d'ici là les blocs opératoires. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Voilà, d'une grogne à une autre, au Tchad, l'Union des syndicats du Tchad, une centrale syndicale qui regroupe plusieurs fédérations et syndicats de travailleurs, termine aujourd'hui une grève d'avertissement qui dure depuis 3 jours sur l'étendue du territoire. Une grève qui paralyse l'administration publique, comme nous le dit notre correspondant André Kodmadjingar.
Les militants de l'Union des syndicats du Tchad UST jettent le pavé dans la mare. Ils exigent du gouvernement, à travers ce débrayage, le versement de la subvention des hôpitaux et la gratuité des soins, le paiement de la pension de retraités ainsi que la bourse des étudiants, mais aussi et surtout l'annulation de la décision du président de la République de geler les primes et indemnités des agents de l'État. Rakis Bassou Singa est le secrétaire administratif et chargé de la formation de l'UST.
La grève est très bien suivie à 99%, aussi bien en Djamena qu'en province. Il n'y a que les décrétés qui sont
en poste. L'objet même de cette grève est très sensible du fait que ça concerne la vie de tous les citoyens, mais pas seulement les travailleurs.
La grève prévoit le service minimum dans les hôpitaux, mais en Djamena, certains centres de santé ferment hermétiquement leurs portes. Le ministre tchadien de la fonction publique, Abdrahman Mukhtar Mahamat, menace de sanctionner les grévistes.
Au titre des subventions des hôpitaux et de la gratuité des soins, les moyens nécessaires ont été déjà mobilisés et les produits sont disponibles. La question de la bourse des étudiants, cela ne relève que de la pure récupération, puisque ces derniers ne sont pas des travailleurs. Fort de tout cela, il est demandé à tous les travailleurs du secteur public de vaquer normalement à leurs occupations. À cet effet, il sera procédé à un contrôle de présence effective dans les services. Toute absence sera sanctionnée conformément au texte en vigueur.
La réaction de l'Union des syndicats du Tchad ne se fait pas attendre. Pour le secrétaire général adjoint Gounou Vaima Ganfari, il faut chercher à régler le problème que de mettre de l'huile sur le feu.
Si le ministre pense que c'est comme ça qu'il va les sanctionner, de toutes les manières, on a déjà eu des grèves où on a sanctionné des gens, on les a ramenés. Donc, ce n'est pas la peine de faire de petits jeux. Nous ne faisons pas de la récupération, surtout avec la bourse des étudiants. C'est la politique du gouvernement non, aujourd'hui. La jeunesse, c'est à travers qui? À l'hôpital, aujourd'hui, tout ce que le ministre dit, il n'y a rien. Comme si les ministres là, ne se soignent pas dans nos hôpitaux, on ne fait que les réveiller. Mais plus ils persisteront, plus les choses iront plus pire.
La bataille s'annonce rude dans les jours à venir, car plusieurs organisations syndicales apportent leur soutien à l'UST et demandent au gouvernement de renoncer à la décision tendant à supprimer les primes et indemnités des agents de l'État. André Kodoma Djingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'accord sur le programme nucléaire iranien a survécu à un vote de procédure hier au Sénat américain. Les démocrates ont fait bloc contre la résolution de désapprobation introduite par les républicains. Ces derniers entendent néanmoins poursuivre la bataille de procédure pour empêcher l'application de l'accord avec l'Iran. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur Walid Fares. Il est conseiller du Congrès américain en matière de lutte contre le terrorisme.
La Maison-Blanche savait qu'elle avait un bloc qui pouvait bloquer les efforts de la majorité républicaine pour empêcher l'application de l'accord avec l'Iran. À ce moment-là, l'administration peut signer cet accord en loi. Mais il ne faut pas aller trop vite car la majorité républicaine a d'autres procédures légales, y compris de changer la discussion d'un accord à un traité. Je pense que le président Obama peut aller exécuter ce traité. Il aura quand même à faire face à des mesures procédurales de la part des républicains.
Les républicains pensaient que la proximité de l'anniversaire du 11 septembre aurait pu inverser la tendance, mais apparemment, ça n'a pas été le cas.
Je ne pense pas que les choses sont aussi émotionnelles et reliées à des symboles. En fait, ce qui a décidé de ce résultat, c'était les élections de l'année passée où les démocrates ont maintenu le pouvoir de blocage à l'intérieur du Sénat. Je pense que l'administration le savait déjà. Ce que l'administration ne pouvait pas calculer, c'est le nombre exact. Et nous avons vu qu'il y a eu 2 défections chez les démocrates, mais même avec ces défections, cela n'a pas beaucoup changé. Mais il faut faire attention au fait que, quoi que l'administration maintenant peut appliquer, il y a des choses qu'elle va demander à cette majorité que la majorité va refuser. Elle sera sur la défensive, y compris d'enlever les lois ou de changer les lois qui mettent des sanctions sur l'Iran. Donc le président pourra enlever les sanctions exécutives, par ordre exécutif, mais pas les sanctions par vote légal jusqu'à la fin du mandat.
C'est aujourd'hui le 14e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001 ici aux États-Unis. Sous quel signe les Américains marquent-ils cet événement?
Il y a le côté positif et il y a plusieurs côtés négatifs. Le côté positif, c'est que l'organisation initiale, Al-Qaïda, qui a attaqué les États-Unis, a perdu beaucoup. D'abord son chef et fondateur, beaucoup de ses commandants, y compris Al-Awlaki, au Yémen, pas mal de bases qu'elle avait en Irak, en Afghanistan et dans d'autres pays du monde. Mais elle a été remplacée par une autre force jihadiste qui, plus est, elle a cette force qui est l'État islamique. D'un point de vue symbolique, Al-Qaïda a probablement été amoindrie, mais d'un point de vue stratégique, la force jihadiste a grandi de façon qu'elle existe maintenant dans 17 pays et qu'elle contrôle au moins 2 grandes zones en Irak et en Syrie et une zone en Libye. Donc le peuple américain, le gouvernement américain, malgré les divisions, l'administration et le Congrès, doivent s'unir et unir leurs efforts contre cette agence terroriste.
Voilà le professeur Walid Fares, conseiller du Congrès américain en matière de lutte contre le terrorisme. Voilà, c'est tout pour cette édition. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. Présentation Bagassi Koura. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet www.voafrique.com.